Du silence, en pleine crise de confiance, le patron français de Ferrero fait son mea culpa après le scandale sanitaire des chocolats Kinder. Il promet transparence et réparation pour faire revenir les clients en rayon, mais vous l'entendrez, les associations de consommateurs ne sont pas convaincues. Occuper le terrain même pendant le pont de l'Ascension, les ministres réunis à Matignon ce matin pour dresser la feuille de route de chacun. Il sera notamment question de santé alors que l'hôpital public doit recourir massivement à l'intérim face aux pénuries de personnel soignant. Reportage à suivre dans une agence spécialisée. La politique, c'est aussi à 8h20, Jérôme.
Oui, avec le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le député MoDem des Hauts-de-Seine, candidat à sa réélection, Jean-Louis Bourlange, invité du grand entretien de la matinale. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, les Texans, toujours autant attachés aux armes, même après la tuerie d'Ouvalde. Le retour de la série Stranger Things après 3 ans d'attente et l'histoire d'une voiture increvable, 1 million de kilomètres au compteur. Son propriétaire veut rendre hommage aujourd'hui aux ouvriers qui l'ont fabriquée.
France Inter.
Il aura donc fallu 1 mois et demi et 80 cas de salmonellose pour qu'il sorte du silence. Je suis désolé. Le patron de Ferrero en France bat sa coulpe après le scandale sanitaire des produits Kinder. Interview ce matin au journal Le Parisien que vous avez lu, Ajra Mohamad. Bonjour.
Bonjour.
Une première prise de parole donc pour promettre la transparence et des indemnisations aux familles touchées.
Parce que la confiance met des années à se construire, mais elle se perd très vite, reconnaît Nicolas Naikoff, le directeur général France de Ferrero. Il répond à 5 lecteurs du Parisien ce matin. Parmi eux, Anne, la mère d'un petit garçon de 2 ans contaminé par une salmonelle après avoir mangé un Kinder Surprise à Noël. Les familles comme vous seront indemnisées financièrement, promet le PDG. D'ailleurs, sur les 150 000 demandes de dédommagement déjà reçues, 90% ont été satisfaites, soit sous forme de bons de réduction ou de bons d'achat. Le patron revient aussi sur l'origine de la contamination des chocolats. Elle vient bien de l'usine d'Arlon en Belgique, d'une cuve à beurre laitier.
Alors Ferrero a les reins solides, hein, mais le patron français l'admet, cette crise sanitaire est un coup dur pour le groupe.
40% du chiffre d'affaires perdu à Pâques, plus de 3000 tonnes de produits retirés, des millions d'autres détruits, les pertes financières s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros pour Ferrero. Alors Nicolas Naikoff s'engage, il annonce de nouveaux protocoles sanitaires dans les usines du groupe et les tests qui jusqu'à présent étaient réalisés à 100% en interne seront confiés pour la moitié à un laboratoire extérieur.
Mais cet engagement se met à culpa, tout ça ne convainc pas tout le monde. Ajra.
Et surtout pas l'association Foodwatch. Sa directrice Karine Jacquemart s'interroge toujours sur le calendrier de cette affaire. Elle répond à Marion Ferrer.
Ce qui n'est pas acceptable du tout, c'est d'abord que ce soit la première fois qu'il s'exprime alors qu'on est fin mai, que Ferrero avait avoué avoir trouvé de la salmonelle dans l'usine d'Arlon qui produit des Kinder le 15 décembre et qu'ils ont été alertés ensuite par des autorités sanitaires allemandes puis anglaises fin mars. Donc c'est un peu dommage de devoir attendre de perdre 40% de son chiffre d'affaires pour sentir que oui, ils doivent rendre des comptes.
Et le dédommagement se fera avant tout devant la justice, insiste la directrice de l'ONG qui a déposé plainte contre Ferrero.
Ajra Mohamad, merci. Rappelons qu'une autre plainte est déposée par Foodwatch dans l'autre scandale sanitaire du moment, les pizzas Fresh Up de Buitoni.
France Inter 8h04, Alexis Morel à 2 semaines des législatives. Le gouvernement veut montrer qu'il est à la tâche.
Même en plein pont de l'Ascension et malgré la période de réserve électorale, Elisabeth Borne convoque dans une demi-heure tous ses ministres à Matignon pour une réunion de travail sur la méthode et les feuilles de route de chacun. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Du service politique d'Inter. Tout en haut de la pile, bien sûr, le projet de loi pouvoir d'achat.
Oui, c'est l'argument de campagne de tous les candidats aux législatives. Elisabeth Borne veut montrer que ce dossier avance, même s'il ne pourra pas être présenté avant le scrutin. Elle demande à Bercy d'établir le montant du chèque alimentaire, le nouveau dispositif pour aider les gros rouleurs, pendant que le ministre de la fonction publique doit négocier l'ampleur de la revalorisation du point d'indice. La nouvelle ministre de la Culture doit vite trouver la parade à la suppression de la redevance audiovisuelle. Rapidité, efficacité, résultat, voilà le slogan mis en avant par Matignon, qui promet déjà d'autres réunions de ce type pour un suivi régulier des dossiers.
Le pouvoir d'achat en tête donc, mais aussi 3 autres priorités, écologie, santé, éducation.
Elisabeth Borne va fixer la méthode pour aborder ces trois chantiers avec un mot-clé, concertation. Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Pap Ndiaye doivent d'abord prendre la température à tous les étages, pas uniquement auprès des syndicats. Plusieurs poussent dans la Macronie pour qu'un premier texte écolo soit examiné dès juillet. Ce qui est sûr, c'est que la ministre de la Santé devra vite porter une nouvelle loi de vigilance sanitaire. Le texte en vigueur aujourd'hui s'applique jusqu'au 31 juillet. Pas d'urgence en revanche pour la réforme des retraites. Les discussions ne commenceront sans doute qu'à l'automne.
Merci Maxence. Vous parliez de santé. Une autre crise brûlante va sûrement s'inviter à la table de cette réunion de travail, celle de l'hôpital. Alors que 120 services d'urgence, 20% du total, ont du mal à fonctionner en ce moment, faute de personnel soignant. Pour éviter la catastrophe, les hôpitaux sont contraints de recourir de plus en plus souvent à l'intérim pour remplir leur planning. Victor Dolande, les agences spécialisées dans le médical sont débordées.
Laura passe ses journées au téléphone, elle est chargée de recrutement à l'AGEMS, une agence d'intérim des métiers de la santé.
Je rentre aussi en contact avec mes intérimaires pour justement savoir si les missions se sont bien passées.
Il y a beaucoup de demandes en ce moment.
Bon, là on voit la liste, donc je ne saurais pas vous dire à peu près, il y en a pas mal.
Après 10 ans dans un hôpital parisien, Éléonore en a eu marre. En permanence sous pression, des horaires impossibles et un salaire qui ne suit pas. Elle est partie avec beaucoup de regrets, mais elle apprécie sa nouvelle vie.
J'ai le luxe, après avoir fait 10 ans d'hôpital public, à travailler un week-end sur deux, de pouvoir choisir mon planning en intérim. Je gagne effectivement un petit peu mieux ma vie. Je pense que je fais un petit peu moins d'heures en vérité.
Chaque jour, ce sont plus de 3000 soignants intérimaires qui passent par cette agence pour prêter main forte aux hôpitaux publics du Grand Paris. Et la demande ne baisse pas.
On recrute 40 à 50 soignants par semaine.
Thomas Duvernois est directeur de cette agence d'intérim.
On ne remplit plus la mission de variable d'ajustement RH pour les établissements de santé. L'intérim n'a pas vocation à combler des postes vacants pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puisque lorsqu'on envoie un soignant intérimaire dans un service, on a tout intérêt à ce qu'il soit bien traité, bien accueilli. Donc dans un hôpital en tension qui va mal, dans un service où la situation est tendue, personne ne sera content.
Pour sortir de cette crise, il faudra des moyens, selon lui, mais surtout offrir de meilleures conditions de travail aux soignants.
Victor Dolande, comme pendant le Covid, l'Union européenne envisage des achats groupés de vaccins et de traitements contre la variole du singe. La Commission veut lancer une commande dans les tout prochains jours. Nous pensons qu'il n'est pas approprié de faire la promotion de nos produits cette semaine. Le fabricant de l'arme utilisée lors de la tuerie d'Uvalde au Texas renonce finalement à participer au grand raout de la NRA, car c'est aujourd'hui que s'ouvre le congrès de ce lobby pro-armes aux États-Unis, à quelques centaines de kilomètres seulement de l'école primaire où 19 élèves et 2 professeurs ont été tués mardi soir. Donald Trump, lui, n'a pas changé ses plans pour autant. L'ancien président va bien s'exprimer en ouverture de cette assemblée de la NRA. Car si l'émotion est nationale, le drame de mardi n'ébranle pas les convictions des Texans propriétaires d'une arme. Sébastien Paour l'a constaté dans un stand de tir.
Dave Hood reçoit en short et t-shirt. C'est le Texas, il peut faire chaud. Et quand il fait chaud, c'est gênant de porter un gros pistolet. Alors je porte ce pistolet de poche. L'ancien militaire et policier devenu propriétaire d'un stand de tir a beaucoup d'autres armes à feu, dont 6 AR-15, le fusil d'assaut utilisé à Uvalde et dans beaucoup d'autres fusillades aux États-Unis. Il en a même un rose pour sa femme. C'est un AR-15. Voilà le bruit que ça fait sur le champ de bataille. Mais ce fusil doit-il se retrouver entre les mains d'un jeune homme de 18 ans comme le tireur de l'école? J'ai beaucoup de membres du ranch qui sont jeunes. Ils s'entraînent pour apprendre à bien manier leur arme. Je ne crois pas à une interdiction universelle. Je crois à la responsabilité individuelle. Et d'après lui, la NRA, le lobby des armes qui se réunit ce week-end, se battra pour ça. Dave est membre de l'association depuis 1977 et que l'ancien président Trump vienne encore y parler ne le dérange pas. Pourquoi pas? Certains présidents et anciens présidents parlent à des organisations qui veulent interdire les armes à feu. Alors pourquoi un ex-président ne parlerait-il pas à une organisation qui défend les droits de la Constitution? Quant à armer les enseignants, comme le suggèrent certains élus du Texas, pourquoi pas, dit Dave, mais avec une formation spécifique. Uvalde, Sébastien Paour, France Inter.
Volodymyr Zelensky accuse Moscou de mener un génocide dans le Donbass. Le président ukrainien n'hésite pas à parler de déportation et de tuerie de masse, alors que la ville de Severodonetsk est bombardée sans répit par la Russie. La Russie où il est toujours interdit d'utiliser le mot « guerre » pour qualifier ce conflit en Ukraine, et où l'étau se resserre chaque jour un peu plus sur les dernières voies indépendantes, y compris désormais à l'université, Sylvain Tronchet.
Longtemps, la Higher School of Economics de Moscou a été considérée comme l'une des meilleures, sinon la meilleure université de Russie, notamment en matière de sciences humaines et sociales. L'une des plus libérales, en tout cas, avec une vraie liberté d'enseignement. Mais au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, quand son recteur a signé une lettre de soutien au pouvoir en compagnie de 300 présidents d'université, beaucoup ont compris que les choses allaient changer. Plusieurs élèves ont été convoqués parce qu'ils avaient exprimé leur opposition à la guerre. Des professeurs ont été écartés. Grigory Youdin y enseigne la sociologie. Pour lui, le pouvoir a mis la main sur l'enseignement supérieur.
Ce qu'on fait maintenant, on ajoute ce qu'on appelle des leçons de patriotisme en école et aussi en université. Ces leçons, c'est tout simplement la propagande et c'est un message à tous les professeurs qu'il faut choisir. Et si on va continuer à travailler dans l'université, il faut corriger le contenu des cours qu'on enseigne.
La Russie a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait quitter le processus de Bologne qui vise à rapprocher les universités européennes. L'enseignement supérieur est particulièrement surveillé ces derniers temps, mais la reprise en main concerne tout l'enseignement. D'après une enquête du site Mediazona, les éditeurs de manuels scolaires russes ont reçu la consigne de limiter au maximum toutes les références à l'Ukraine. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
C'était l'un des sujets de tension avec l'Union européenne. La Pologne renonce à un système disciplinaire pour ses juges. Le Parlement a voté sa suppression hier soir dans l'espoir d'apaiser les relations avec Bruxelles sur le respect de l'état de droit, car c'est ce qui bloque actuellement le versement des fonds du plan de relance européen à Varsovie, 35 milliards d'euros.
Pour ses amis musiciens, pour ses fans, c'était Fletch.
Andrew Fletcher, l'un des fondateurs de Depeche Mode, est mort à 60 ans. Il était le claviériste du groupe britannique fondé en 80 et à qui l'on doit plusieurs tubes avec évidemment notamment Just Can't Get Enough. Depeche Mode lui rend hommage ce matin. Fletch avait un cœur en or, il était toujours là quand vous aviez besoin de soutien ou d'une pinte fraîche. Après 3 ans d'attente, le retour ce matin de Stranger Things, l'un des plus gros succès de Netflix, 4e saison de cette série de science-fiction rétro. On suit une bande d'ados dans les années 80. Alexandra Hakoun, ça vous a beaucoup plu? On revient en fait à ce qui faisait le succès de la série à ses débuts.
Le retard imposé par la crise du Covid aura été bénéfique aux frères Duffer. Oubliez les intrigues ultra-alambiquées des saisons 2 et 3. Lorsque s'ouvre celle-ci, on est au printemps 1986. Will et sa famille sont partis vivre en Californie avec Eleven, tandis qu'à Hawkins, le reste de la bande a repris une vie normale. Entre lycée et partie de Donjons et Dragons, l'apparition de cadavres désarticulés comme des pantins va obliger la bande chasseuse de monstres malgré elle à reprendre du service.
On est une équipe. Des amis. Ça va encore être à nous.
Go ! Démarre !
Une bonne dose de frissons, voire même quelques scènes un peu gore, de l'humour, des clins d'œil cinématographiques à foison, tout ce qu'on aimait au lancement de Stranger Things est là, y compris une BO années 80 impeccable, avec cette fois-ci Kate Bush comme rempart contre le mal. Et comme pour se faire pardonner ces 3 années d'attente, les frères Duffer ont allongé tous les épisodes entre 1h10 et 1h40. Le tout dernier volet de la saison qui arrivera en juillet sera carrément un film de 2h30.
2h30 quand même, il vous faudra un peu plus de temps pour lire les 10 ouvrages sélectionnés pour le prix du Livre Inter. Avant que le jury ne délibère, les auteurs viennent nous présenter leurs livres. Ce matin, Véronique Olmy pour Le Gosse, l'histoire d'un orphelin confié à l'assistance publique au début du XXe siècle. Véronique Olmy avec Eva Bétan.
C'est l'histoire de Joseph qui naît après la Première Guerre mondiale dans les quartiers plutôt prolétaires de Paris. Il va perdre sa mère et va être pris en charge par l'assistance publique. Ce système qui, au départ, est louable. On ne laisse aucun enfant à la rue. On le place d'abord à la campagne et à la moindre incartade, il va se retrouver comme beaucoup de ses enfants, orphelins, abandonnés, arrêtés, mis au dépôt. Et de cette prison de la Petite Roquette, Joseph va être, comme beaucoup de ses enfants, envoyé dans une colonie pénitentiaire. C'était des bagnes pour enfants.
Ils n'ont pas commis de crime. À quel moment du monde on est pour que ça puisse avoir lieu?
À partir de 1830-1840, l'exode rural et l'industrialisation, beaucoup de familles sont venues dans les villes et il y a eu énormément d'enfants dans les rues. Et ça dérangeait l'ordre établi et donc c'est là qu'on a bâti et les colonies pénitentiaires et les prisons pour enfants.
Et vous retrouvez cette interview en longueur comme toute la sélection d'ailleurs sur franceinter.fr.
Et on en vient à ce défi un peu fou que s'est lancé un automobiliste de l'Oise.
Oui, sa voiture, une Peugeot 307, s'apprête à franchir dans quelques heures le million de kilomètres au compteur. Mmh. Vraie performance, hein, quand on sait que la durée de vie moyenne d'une voiture, c'est plutôt 250 000 oui. kilomètres. Alors ce Picard veut fêter ça avec ceux qui l'ont fabriqué. Il roule en ce moment en direction de l'usine Peugeot de Sochaux. Arrivée prévue ce soir, et c'est là, devant l'usine, que le cap du million sera atteint, Delphine Evenou.
La cinquantaine, à bord jovial, Fabrice Gomet n'est pas un fétichiste de la mécanique.
J'ai pas une relation fusionnelle avec cette voiture.
Mais les dizaines de milliers de kilomètres avalés avec son métier dans l'industrie du carton lui ont appris à dompter sa Peugeot.
Un petit coup de moteur ?
On attend que ça chauffe. C'est un détail, mais c'est super important pour l'entretien. Autrement, on va pas jusqu'au million.
Bilan des courses après 16 ans de bons et loyaux services.
46 révisions, 11 contrôles techniques, 25 fois le tour de la Terre, 5110 nuits à la Belle Étoile, puisqu'elle n'a fait que coucher dehors.
Un des secrets de longévité, selon lui, avec un mécanicien scrupuleux pour l'entretien et une fabrication optimale par les ouvriers de l'usine de Sochaux-Montbéliard.
L'idée sympa, c'est de le partager avec les gens qui pensent être sur la ligne. Quand je dis sur la ligne, c'est-à-dire qu'ils ont été sur cet élément de production.
Denis Viennet, retraité après 40 ans d'usine automobile, ne manquera pas le rendez-vous.
Eh oui, j'y serai, oui.
Ému par le geste.
C'est formidable ce qu'il fait. C'est une personne qui reconnaît notre travail. Une personne comme ça, qui fait ce qu'il fait, le déplacement et tout, pour retrouver des gens qui ont monté son véhicule et les remercier, moi je trouve que c'est beau.
Reste une interrogation, et pas des moindres, le compteur kilométrique électronique de la Peugeot a-t-il été conçu pour pouvoir passer le million ? La réponse est au bout de la route.
On vous tient au courant, vous avez bien retenu la leçon Jérôme, on attend que ça chauffe avant de démarrer,
oui.
Voilà le secret.
Et un garage ça sert à rien, elle dort dehors et elle fait un million de kilomètres. Entre nous c'est la ruine comme des constructeurs, hein, si chaque voiture fait un million de kilomètres. Merci à vous Alexis Morel, Marie-Pierre Planchon pour la météo.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Marie-Pierre, une nouvelle perturbation est arrivée sur le nord du pays.
Et oui, et on la retrouve, Jérôme, de la Bretagne au Pays de la Loire, au centre, à l'Île-de-France, jusqu'aux Ardennes, à la Lorraine et au nord de l'Alsace, avec de faibles pluies du Cotentin à l'heure jusqu'au sud de la Picardie, aux Ardennes. En revanche, sur les deux tiers sud du pays, votre matinée sera plus ensoleillée avec quelques cumulus et des bancs de nuages bas aussi près des Pyrénées, des nuages plus nombreux au sud de la Garonne et sous un ciel voilé et du vent autour de la Méditerranée jusqu'en Corse et sous des températures contrastées. Hein, c'est descendu à 5 à Aurillac alors qu'il fait 23 à Nice, un record pour le mois de mai. Vous avez 14 à Strasbourg et à Paris.
Ce sera un peu plus ensoleillé cet après-midi.
Oui, avec ces conditions anticycloniques, les éclaircies vont revenir sur la moitié nord. Ailleurs, ce sera aussi une alternance entre soleil et passage nuageux, voire quelques averses sur les reliefs des Alpes du Sud et des Alpes maritimes, et même un orage, et avec du vent toujours en Méditerranée, sous des températures de saison au nord. Il fera plus chaud au sud, avec 32 à Montpellier et à Ajaccio, 33 à Marseille, alors qu'il ne fera que 16 au Havre, 19 à Lille, comptez 22 à Paris, quand même à Nantes, 24 à Aurillac et 28 à Grenoble.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. Il est 8h18, géopolitique.